I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avertissement. Un an après la diffusion de cet épisode, la voix de Lola a été modifiée et certaines informations qui permettraient de l'identifier ont été masquées, ceci à la demande de l'intéressé. Bonne écoute.
Vous écoutez la suite du témoignage de Lola. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter d'abord la première partie.
Pendant le confinement, du coup, j'ai demandé à mon copain de me genrer au masculin pendant quelques jours, ce qu'il a fait, et je me sentais trop bien, quoi. Après, j'ai voulu qu'on alterne il et elle, parce que je crois que j'avais encore peur d'abandonner elle. Et en fait, ben, on me genrait un peu quand même pas mal au féminin, et ça me saoulait, donc maintenant c'est masculin. Mais ouais, ça a été assez intense, hein, comme prise de conscience, parce que c'était en même temps dans la tête, c'était mental, mais c'était aussi dans ma chair et dans mes émotions, quoi. J'étais hyper fébrile. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et en même temps, mais c'est ce que j'ai toujours été. Enfin...
Donc c'était une part de masculinité qui était en toi depuis toujours?
Non, je pense pas qu'il y ait une part de masculinité en moi, parce que j'ai reçu une éducation en tant que petite fille. Je n'ai pas de masculinité en moi, en tout cas comme la société le dit. Par contre, il y a des choses dans la masculinité dominante, disons, que j'ai beaucoup toujours envié, que ce soit la possibilité d'être négligé, le fait de prendre l'espace, de parler fort sans qu'on te dise de fermer ta gueule. Il y a quelque chose que j'ai toujours envié chez les hommes, et cette espèce de pouvoir qui leur est auto-conféré, je me suis toujours dit, mais je le veux, et je le prenais un peu. Hein, voilà, j'ai toujours été quelqu'un... qui prend de la place et qui parle fort quand même, donc c'était déjà là. Mais le fait d'être non-binaire et de m'extirper complètement, de me dissocier du pôle femme, on va dire, bah ouais, je me sens plus légitime à prendre ces outils sociaux aussi, quoi. C'est assez dingue de dire, bah ouais, regardez, je peux tout être, en fait.
Au moment où tu as découvert que tu étais non-binaire, tu t'es situé sur le gender fluide. Dans ton cas, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est naviguer entre les deux genres. Il y a des jours ou des moments même de la journée où je me sens femme. C'est très cliché à dire, hein, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et d'autres moments de la journée ou dans l'espace où je me sens homme. Mais en règle générale, ce que ça me fait d'être gender fluide, c'est que ça me permet d'expérimenter d'autres codes qui ne sont pas les miens, que ce soit vestimentaire, en termes d'attitude, en termes de façon de penser le monde, de façon de voir comment s'opère la société, comment fonctionne la politique aussi. Enfin, voilà. Et ouais, gender fluid, c'est... Je me sens libre comme ça.
Du coup, 2 mois après ou 3 mois après avoir commencé ton activité d'escorte, tu découvres que tu es non-binaire. Comment tu gères avec tes clients?
Moi, j'opère une véritable dissociation entre ma vie privée quotidienne, personne non-binaire qui se genre au masculin, et mon travail, dans lequel, à l'heure actuelle, dans la société actuelle, je ne peux pas être escorte outée non-binaire parce que les clients ne savent pas ce que c'est en général, ou ne le comprennent pas, ou le rejettent. Donc, tout simplement, le fait de me genrer au féminin et de paraître femme, c'est vendeur, alors qu'être non-binaire, ce n'est pas vendeur dans ce métier-là. L'identité féminine que je développe en tant que Lola dans mes rendez-vous, c'est pas une part de féminité que j'ai dans le privé. C'est vraiment autre chose. C'est une autre féminité que j'expérimente et que je joue, que je performe même. C'est vraiment autre chose, hein. C'est vraiment très dissocié. J'ai même des tenues dédiées à l'escorting, certaines robes. Moi, je ne mets pas de robe, hein, dans le quotidien, donc certaines tenues, même la lingerie, tu vois, c'est des choses qui sont vraiment dédiées à l'escorting, qui ont une place à part dans le placard. Voilà. Avant un rendez-vous, bah, y a tout un moment que moi, j'ai pas mal ritualisé aussi de préparation pour aller travailler. J'aime bien me prendre au moins une heure et demie de calme et de solitude avec un peu de musique, me préparer en prenant mon temps, en voilà, lisant un petit peu, en buvant un petit coup, et puis en y allant tranquille, quoi. Comme ça, je suis zen. Moi, en tout cas, je vais jamais en rendez-vous sans avoir ce temps-là, quoi. Je rentre dans la peau de Lola.
Donc en fait, tu fais cohabiter deux vies, étudiant, escorte, et deux identités, il et elle.
Oui, un petit peu. C'est une coloc. C'est une coloc, mais franchement, je suis pas torturé. Je suis pas. Effectivement, des fois, il y a des contradictions, il y a des trucs un peu bizarres qui se créent, mais en règle générale, j'aime bien ces contrastes-là.
C'est une coloc avec toi-même.
Ouais, carrément. Ce que j'aime dans ce métier, dans la façon dont je peux l'exercer, c'est la liberté au niveau de mes horaires et de mes tarifs. Donc, c'est être un peu son propre patron sur toute la ligne. C'est ne pas avoir à se lever à 6h du matin pour prendre le métro. Bon, des fois, oui, parce qu'il y a des rendez-vous le matin, mais c'est rarissime. Ouais, c'est surtout cette liberté-là. Il y a aussi une solidarité énorme entre les TDS. C'est inimaginable pour quelqu'un qui n'est pas TDS. Il y a une solidarité de malade mental. Toujours quelqu'un qui est là, plein de dispositifs mis en place, des cagnottes pour aider les TDS précaires pendant le confinement. Ça aussi, c'est hyper empouvoirant, en fait. Et notamment du fait qu'il y a beaucoup de TDS queer, il y a des TDS non-binaires. Donc moi, j'ai des collègues qui me ressemblent beaucoup, avec qui je peux échanger, avec qui je peux partager mes vécus. Donc ça, toute la déconstruction que ça m'a amené, les réflexions, les remises en question, les bouleversements, c'est des choses que j'aurais pas compris aussi vite et de cette manière si j'avais pas été TDS. Ce que j'aime pas, c'est ce que la société fait du TDS, ce que la société fait de nous, les difficultés à exercer de façon safe, même dans mon cas où je suis hyper privilégié, je suis quand même pas safe à cause des lois. Je suis pas safe à cause de la façon dont les gens imaginent le TDS. Je suis pas safe nulle part. Ça, c'est violent. C'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de violence tout le temps. C'est avoir des collègues TDS qui se suicident et qui sont assassinés aussi. C'est la partie vraiment pas joyeuse du taf dont il faut prendre conscience. Il faut que les gens sachent que là, comment j'en parle, on a l'impression que c'est tout rose, et des fois c'est tout rose, mais derrière, c'est beaucoup de douleur et c'est beaucoup de combat, quoi. C'est pour ça que je peux pas me m'outer, donc c'est-à-dire dire que je suis TDS publiquement en montrant mon visage. Il y en a qui le font, moi je peux pas le faire, parce que ma famille, parce que ce soit dans mes relations avec les gens, ou ma réputation, ou si je mets ça sur mon CV et qu'un jour je veux faire un autre travail, je suis à peu près sûr de jamais en trouver. Je pense que ça pourrait vraiment ruiner ma vie. Et c'est assez paradoxal, finalement, parce que finalement, ce métier ne ruine pas ma vie. Hein. Je me sens très bien là-dedans. Mais si je le dis, ça a le potentiel de ruiner ma vie. J'en ai parlé. Donc j'ai dit à certains amis de mon entourage proche et à mon amoureux aussi que j'étais TDS. Et c'est des gens tellement proches de moi qui sont, je le sais, tellement ouverts d'esprit et alliés de plein de causes militantes qu'il n'y a pas eu de problème. Bon, le premier réflexe, c'est un peu de s'inquiéter, genre, est-ce que tu le fais de façon safe? Après, tu les rassures, ils sont en mode, bah ok, c'est ta vie, quoi. Voilà, c'est un taf. Bravo, t'as trouvé du taf. Mais disons que je choisis de façon très, très précautionneuse à qui j'en parle, comment j'en parle et à quel moment j'en parle. Il y a des amis qui le savent toujours pas, qui le sauront peut-être un jour, peut-être pas. Des fois, ça dépend du moment. Des fois, je me dis que non. Enfin, bon, voilà. Et ma famille, bien sûr que non, parce que c'est pas une famille qui est déconstruite déjà sur plein de trucs, que ce soit féminisme ou anticapitalisme ou ce que tu veux. Donc, à quel moment je peux tenir ce discours-là sans que soit ils soient déçus, soit ils soient trop inquiets, Enfin voilà, en tout cas, moi je suis très proche d'eux et d'elles, donc ça, j'ai pas envie que ça détériore nos relations. Et pour l'instant, je préfère leur mentir plutôt que de leur dire la vérité. Et des fois c'est un peu pesant, parce que c'est jamais agréable hein, de trop inventer de mensonges et trucs, mais finalement, le peu de personnes qui sont au courant, comme ils sont très bienveillants, je peux leur parler de mes journées de taf, comme on me raconterait une journée de taf à la boulangerie, et c'est cool. Dès là, ça m'aide pas mal, tu vois.
Du coup, tu dis quoi, ta famille ?
Je dis que je fais du babysitting. Enfin, ouais, des trucs pas trop traçables. C'est vraiment une petite souffrance de mentir, sachant ouais. que c'est des gens à qui je dis tout. On est très complices.
Il y a aussi la non-binarité dont tu ne leur parles pas. Donc, toute une grosse partie de ta vie dont tu peux pas leur parler.
Ouais, c'est clair. Mais oui, parce que... je fais un peu step by step. Déjà, bon, ça fait quelques années que je leur balance des petits discours féministes. J'essaie de, voilà, quand il y a un truc problématique, de le relever, de dire pourquoi, non, machin, de raconter les histoires que j'ai entendues pour leur faire prendre conscience. C'est long. Donc, step by step, quoi. Je suis pas prêt à leur dire que je suis non-binaire et TDS, là.
Lola a découvert sa non-binarité pendant le temps suspendu du confinement. Au moment où nous enregistrons cet entretien, la rentrée n'a pas encore eu lieu. Je lui demande comment vont se dérouler les présentations avec les profs et les nouveaux élèves de sa classe.
Si sur le moment je ne suis pas en train de décéder intérieurement, je compte le dire, ouais. Le jour du premier cours, on va se présenter, chacun son tour. Je vais me lever et je vais dire... Je suis non-binaire, genre et moi au masculin, ne me posez pas de questions, au revoir. Enfin, j'espère que j'aurai le courage et la force de le faire en tout cas.
Lola est aujourd'hui très engagée pour l'acceptation des identités trans et non-binaires, engagée aussi pour le féminisme. Mais pour beaucoup, ce n'est pas compatible avec le travail du sexe. C'est devenu un combat pour Lola de prouver le contraire.
Si on milite pour les droits des femmes, bah, il faut militer pour les droits de toutes les femmes et pas que certaines femmes. Le féminisme abolitionniste, je trouve que c'est un féminisme un peu excluant et qui rend service qu'à une partie des femmes. Or, bah voilà, je suis un des exemples. Le TDS peut être bien vécu, peut être source d'empouvoirment, entre guillemets, peut être utilisé pour des bonnes choses. Et c'est pas que destructeur et c'est pas que victimisant. Donc, pourquoi on peut pas être féministe, en fait ? Dans l'imaginaire collectif, la personne TDS, la prostituée, on dirait même, c'est une personne, en général, sans papier, qui est sous le joug d'un proxénète tyrannique. On a dans l'esprit la traite des êtres humains, en fait. C'est une traite d'êtres humains, donc c'est pas du travail, hein. C'est de la prostitution forcée, c'est gravissime. Et ça existe, on se bat pour ça aussi, mais c'est pas l'entière réalité, quoi.
Il y a des personnes qui, pour certains, considèrent qu'on peut pas appeler ça un travail, et qui considèrent, pour certains, que même lorsque c'est choisi, ça ne peut pas bien se passer, qu'on ne peut qu'être victime de ça.
Il y a quand même beaucoup qui n'ont jamais été TDS ou qui n'ont jamais parlé à un ou une TDS. De quoi tu parles, finalement, tu ne sais pas. Et il y a aussi des personnes abolitionnistes qui ont été TDS et qui se considèrent comme des survivants, survivantes, entre guillemets, qui l'ont mal vécu pour une raison ou une autre. En fait, pour le coup, cette parole, elle est carrément entendable, parce que c'est des gens qui l'ont vécu, donc il faut absolument l'entendre. Si derrière, la personne milite pour supprimer le TDS, là, ça me repose problème à nouveau. Parce qu'il y a des gens, si tu leur supprimes le TDS, ils vont pas s'en sortir, en fait. Il faut prendre le problème de façon plus large. On est dans un monde où on doit travailler. Concrètement, si toi et moi, on pouvait s'arrêter de travailler tout court, on le ferait, tu vois. Donc moi, je trouve que militer pour l'abolition du travail du sexe, c'est archi débile. Milite pour l'abolition du travail tout court, en fait. Parce qu'on vit dans un monde où il faut de l'argent pour survivre. Des gens préfèrent faire ça plutôt que bosser dans un bureau ou ailleurs, dans un taf qui leur ferait peut-être faire un burn-out et être très malheureux. Et oui, effectivement, il y a des TDS qui veulent s'en sortir et qui préféraient carrément faire autre chose. Mais nous, on est là pour les aider aussi. Hein. On n'est pas en train de faire l'apologie du TDS. Tout le monde est TDS, tout est beau, tout est rose. Faut pas que ce soit complètement normalisé, parce que c'est pas un métier comme un autre non plus, mais il faut que ce soit déstigmatisé absolument, quoi. On n'en peut plus, là. Si vous n'êtes pas TDS et que c'est quelque chose dont vous ne savez rien ou sur lequel vous avez des a priori ou des grosses stigmatisations, écoutez-nous, c'est hyper important pour nous.
Journal de pute, extrait.
La pute épanouie représente tout ce que la société patriarcale s'applique à éradiquer. Nous sommes des indésirables, mais il y a de la demande pour nos services. Ce sont les mêmes hommes cis blancs hétéros qui nous précarisent avec leurs lois criminalisantes et qui ont en même temps la carte d'une escorte dans la poche du costard. Parce que j'incarne autant la convoitise que l'indésirable. La fascination et le rejet, l'envie et le dégoût. On veut nous sauver, mais nous sauver de quoi au juste? Moi, pour rien au monde, je ne voudrais arrêter. Et celles et ceux qui veulent arrêter, je donnerai tout pour qu'ils puissent sortir de là.
Un très grand merci à Lola pour son témoignage. C'est la fin de cet épisode et c'est déjà la fin de la saison 1. Je vous remercie pour tous vos messages, pour tous les retours qui me donnent des ailes. Newt fait une pause, je vous retrouve en début d'année prochaine pour la saison 2. D'ici là, vous pouvez continuer de venir discuter sur Instagram avec moi dans les coulisses de Nude. Si le cœur vous en dit, mettez-moi des étoiles et des commentaires sur iTunes. Vous pouvez aussi vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne pas manquer l'arrivée de la saison 2. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux témoignages sans filtre.